au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, bienvenue sur l'agenda littéraire de Canal Académie. Cette émission complète notre lecture du livre de Christian de Duve, Génétique du péché originel, publié en 2009 aux éditions Odile Jacob. Nous en étions au tout début de l'aventure humaine. Resituons pour mémoire l'échelle des temps. La vie apparaît il y a 3,5 milliards d'années. La vie animale, 600 millions d'années. L'homme, il n'y a que 3,5 millions d'années. L'avènement de l'homme est donc tout récent. C'est en Afrique que sont apparues d'étranges créatures, simiesques d'apparence, donc en parenté avec le singe, mais qui marchaient à la verticale et pouvaient tenir des objets dans leurs mains comme l'homme. Une grande découverte anthropologique fut, en 1974, la découverte de Lucie, le squelette presque complet d'une jeune femelle en Éthiopie. Selon l'anthropologue Yves Coppens, il y a 7 millions d'années, deux fois l'apparition de l'homme, un petit groupe de singes, ancêtres des chimpanzés, ont dû s'adapter à un nouvel environnement. Un changement climatique profond les a fait passer de la forêt à la savane. D'où une obligation de parcourir du terrain, de marcher pour survivre, c'est là qu'ils seraient devenus bipèdes. Puis, pour se protéger des prédateurs, les déceler, fabriquer des outils, leur cerveau se serait développé. Scénario tempéré par une autre découverte dans une autre partie de l'Afrique. Michel Brunet découvre en 2001 des restes de préhominidés remontant à 6 ou 7 millions d'années. Les détectives de la préhistoire travaillent finalement avec des indices trop maigres pour dissiper toutes les incertitudes. Un constat, cependant, l'art de fabriquer des outils aura couvert plus de 2000 millénaires de l'évolution. Et il n'aura fallu qu'une petite fraction de millénaires pour passer du boulier à l'ordinateur. Aujourd'hui, l'évolution culturelle a pris le relais de l'évolution biologique. Une différence de taille. Oui, la taille du cerveau. Entre le préhumain des premiers outils et nous-mêmes, le cerveau a doublé de volume. De palier en palier, Christian de Duve nous fait suivre la progression de cette saga extraordinaire, comme il la nomme. Il nous apprend comment ces multiples étapes reflètent une évolution du cerveau, en taille, en complexité, en liaison avec l'habileté manuelle. Comment les espèces en évolution vers l'humain se sont éteintes à l'exception d'une seule. Comment la position du larynx humain permet d'émettre une variété de sons nécessaires au langage. Et enfin, comment les Cro-Magnons ont inauguré la lignée des humains modernes, les Homo sapiens. Une énigme, celle des Néandertaliens. Génétiquement voisins des Cro-Magnons, ils ont migré vers le nord et ils ont mystérieusement disparu. Où sont-ils passés? Voilà qui nous laisse à nos hypothèses. Étape incontournable, Christian de Duve consacre un chapitre à la construction du cerveau. Le cerveau, c'est la merveille de la vie. Et le cerveau humain, son chef-d'œuvre. Rappel de quelques notions connues. Le cerveau est constitué de neurones, une cellule au même titre que les autres, sinon qu'elle dispose de prolongements qui en font une cellule miracle. Ainsi peut-elle communiquer à distance avec des zones sensibles. Elle peut également s'associer à d'autres neurones. C'est ce qui s'est produit de façon de plus en plus complexe au fil de l'évolution, jusqu'à faire du cerveau une véritable jungle de connexion. La partie enveloppante du cerveau, le cortex, apparaît comme le siège de tout ce qui fait la conscience. Sentiments, émotions, pensées, rêves, imagination. Pour un neurobiologiste comme Francis Crick, nous ne sommes qu'un paquet de neurones avec l'impression illusoire d'être aux commandes. En deçà des zones corticales, le plus gros de l'activité mentale demeure inconsciente. Elle est dévolue à des phénomènes physiologiques tels que battements de cœur, digestion et bien d'autres. on situe les premières données conscientes au bas de la lignée animale. Quant à la lignée humaine, elle a vu l'expansion du cerveau passer par une série de paliers successifs. L'auteur nous en propose une chronologie confrontée au volume croissant du cerveau. Or, le nombre de neurones s'apparente à une fonction exponentielle du volume. Mais cette expansion serait limitée à la naissance par la dimension du bassin féminin et par le degré d'immaturité compatible avec la survie. Nous partageons avec le chimpanzé 98,5% de nos gènes. Une petite différence de 1,5% nous en distingue. C'est elle qui nous fait spécifiquement humains. En pourcentage, 1,5% c'est très peu. Mais en texte génétique, ça correspond à 45 millions de lettres. Comment cette différence a-t-elle été acquise ? Les hominidés, nous dit Christian de Duve, n'offraient à de possibles mutations qu'une population faible, faible et dispersée en petits groupes relativement consanguins. Dans ces conditions, nous explique-t-il, une mutation favorable avait toute chance de rapidement se répandre dans le groupe et de lui apporter une supériorité décisive. L'embryologie expérimentale a pu le montrer, il existe des maîtres gènes dont le rôle est déterminant. Par exemple, pour la formation de l'œil. Par changement ou ajout d'un tel gène, on a pu, sur des animaux, changer le type d'œil, voire faire apparaître un œil supplémentaire. Certains maîtres gènes peuvent même agir sur le développement général de l'organisme. C'est à ce type de mutation que l'on peut attribuer les grandes étapes de l'hominisation, sans perdre de vue le rôle de la sélection naturelle. Les quadrupèdes seraient d'abord devenus bipèdes, lente évolution au fil de millions d'années, s'accompagnant de nombreuses modifications anatomiques. Avantage sélectif probable, une plus grande facilité de déplacement et la libération des mains. Mise au service de l'habileté manuelle et de la fabrication d'outils, l'expansion du cerveau a continué d'être un facteur sélectif. Plusieurs ethnies d'hominidés sont apparues. L'Homo sapiens fut la seule, nous l'avons vu, à ne pas s'éteindre. Sans doute est-ce le hasard des modifications environnementales qui a guidé ces migrations hors de l'Afrique. Des différences de milieu pourraient ensuite expliquer les différenciations de race, un concept sans réelle valeur génétique, puisque relevant d'une même espèce humaine. Cette évolution vers l'humain a-t-elle été le fait du hasard ou devait-elle tôt ou tard se produire ? L'évolution est-elle parvenue à son stade ultime ? Autant de questions, autant de débats. Christian de Duve s'interroge alors sur ce qu'il nomme le prix du succès. Un succès qu'il mesure en croissance de population. Tirant parti des pouvoirs de leur cerveau, les humains, nous dit-il, ont proliféré au-delà de toute mesure. Ils ont exploité à leur profit une part importante des ressources de la planète. 3,5 millions de millénaires après l'apparition de la vie, parmi des millions d'espèces, il en est une qui explose jusqu'à dominer le monde en quelques millénaires. Et le plus gros de sa conquête n'aura demandé que quelques siècles. Une histoire cependant marquée par une succession de conflits, une destruction irresponsable des ressources naturelles, conclusion inquiétante, l'humanité risque d'aller au-devant de terribles épreuves, sinon de sa propre perte. Sombre tableau. À le contempler avec les yeux du biologiste, je ne vois qu'un seul coupable, dit Christian de Duve, la sélection naturelle. Ce n'est là qu'une métaphore, bien sûr, car il n'y a aucune culpabilité. Mais la sélection naturelle n'a cessé de privilégier les qualités personnelles favorisant le succès immédiat des individus, la cohésion à l'intérieur du groupe, l'hostilité entre les groupes. Et cela, au détriment d'autres qualités, la prévoyance, la sagesse nécessaire pour sacrifier les avantages immédiats aux exigences de l'avenir. Voilà bien la métaphore. Le péché originel n'est autre que la faille inscrite dans les gènes humains par la sélection naturelle. Et la rédemption ne viendra pas du ciel. C'est à nous de l'assumer. Dans la dernière partie de son ouvrage, Christian de Duve dresse le catalogue des scénarios possibles pour conjurer le désastre. Peut-on déjà imaginer qu'un surhomme puisse un jour survivre à l'homme ? Difficilement, répond de Duve, car notre humanité n'est plus soumise à la sélection naturelle. Alors, pouvons-nous compter sur l'amélioration de nos gènes par quelque intervention génétique ? On a pu le faire sur certains animaux. Mais la transposition à l'humain se heurte à des considérations éthiques sérieuses. Et puis, un tel scénario est non seulement évocateur de projets nazis, il est tout simplement dérisoire face à l'obligation de changer 6 milliards d'individus. Ayant fermé plusieurs portes, dont celle de l'eugénisme, l'auteur se tourne vers celle du sauvetage écologique, là où les controverses vont malheureusement bon train. On admet de plus en plus l'existence de l'effet de serre et son influence sur le climat, écrit-il. Mais tout en reconnaissant le bien fondé d'une prise de conscience et des efforts engagés, il note que l'activisme écologique se fonde trop souvent sur des assertions de faible crédibilité scientifique. Il dénonce comme irréaliste l'abandon de tout recours à l'énergie nucléaire. En quelques pages lumineuses, il prend la défense des OGM et fait pièce aux objections qu'il suscite, à ce qu'il nomme la propagande anti-OGM. Voilà 10 000 ans que la chose existe avant le mot, que les humains ont croisé les espèces en totale ignorance des mécanismes génétiques mis en œuvre, et cela sans aucun dommage. Autre espoir, recâbler le cerveau. Christian de Duve rappelle que le câblage de notre cerveau ne dépend pas que de nos gènes. L'épigénétique, au sens de l'éducation, commence au berceau et peut jouer un rôle majeur. Les dirigeants politiques et surtout religieux, nous dit-il, sont particulièrement bien placés pour propager les recommandations dont le monde a besoin. Et il s'empresse bien sûr de tempérer ce propos. C'est aussi dans cet espoir de changer le monde que de Duve suggère de confier le pouvoir aux femmes. Les femmes n'ont qu'exceptionnellement porté les armes, écrit-il. Gagner en combat est génétiquement un impératif mâle, grandement favorisé par la sélection naturelle. Mais l'incontournable nécessité, celle qui s'impose en dernière analyse, d'une manière ou d'une autre, insiste-t-il, c'est la réduction de la natalité. Car pour lui, à l'évidence, la crise annoncée par Malthus vient d'éclater. La limitation des naissances doit être encouragée et son contraire sanctionné par des mesures financières et fiscales. Au pouvoir politique, avec l'appui du plus grand nombre d'autorités morales possibles, de prendre activement position, conclut Christian de Duve. Merci de votre écoute. À bientôt pour un nouvel agenda littéraire sur l'antenne de Canal Académie.